Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Pour ce nouvel épisode, je reçois à mon micro Floriane Cohérier. Floriane, c'est une jeune femme pleine de rêves, pleine d'ambition, qui aujourd'hui est commerçante, à la tête de sa propre entreprise, une boutique de papeterie et d'art de vivre qui s'appelle Maison Pan et qui est située en plein cœur de Tours. Floriane, elle a aussi lancé sa propre marque de papeterie, pensée, créée, imaginée et imprimée en France, Anna Posimo. Alors c'est vrai que je le dis souvent, mais là encore, c'était une évidence d'inviter Floriane, que je connais, il faut le dire, plutôt bien, parce que vous le verrez durant cet échange, elle l'expliquera bien mieux que moi, mais Floriane, elle ose, elle pousse les portes, elle ne se pose aucune limite et elle est là pour donner vie à ses envies, à ses idées, à ses projets, sans se poser de questions. Et ça fait du bien d'entendre des parcours comme ça, et c'est surtout ultra inspirant. Alors, évidemment, on va parler de son parcours, qui est plutôt atypique, vous le verrez. Et on va également parler, bien sûr, de Maison Pan, de ce qu'est sa boutique, de ce qu'elle a donné comme image, comme univers à cette marque qu'elle a créée. Et vous comprendrez qu'en fait, ça va au-delà d'une boutique. Maison Pan, ce n'est pas seulement une boutique. Et globalement, tous les projets de Floriane, elle y met beaucoup d'elle, beaucoup de cœur, beaucoup d'humain et beaucoup de ses valeurs, finalement. Alors, je n'en dis pas plus parce que je pourrais en parler des heures tellement j'aime aussi l'univers qu'elle a créé et sa boutique. Donc, je vous laisse de suite avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Floriane.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode du podcast. Évidemment, on se connaît très bien. Je pense que tout le monde le sait maintenant, ceux qui me suivent en tout cas. Et ça m'apparaissait évident de t'inviter dans cet épisode du podcast parce que ton parcours, et d'ailleurs moi j'en ai découvert quand on a préparé l'épisode, est impressionnant. Et aujourd'hui, tu as la tête d'une boutique dont tu nous parleras un petit peu plus tard. Mais avant, comme d'habitude, j'aimerais que tu puisses te présenter brièvement. D'abord, parce qu'on va développer un petit peu après, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as.
Merci déjà pour cette invitation, Émilie. Alors, du coup, je suis Floriane, j'ai 28 ans et j'ai créé deux entreprises. Une première qui s'appelle Maison Pan, qui est un commerce où on vend essentiellement de la papeterie et des idées cadeaux déco. Et une deuxième qui s'appelle Anna Posimo et on crée et conçoit de la papeterie qu'on va revendre surtout en B2B ou alors à d'autres jolies boutiques.
Bon, alors ça promet un épisode hyper intéressant, surtout quand tu nous parles de papeterie. Avant ça, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les études que tu as faites? Est-ce que tu as ton bac? Est-ce qu'après le bac, tu as fait des études? Dans quel domaine? Dis-nous tout.
Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai souvent changé.
Oui.
Alors au début, j'ai commencé par un bac pro en esthétique.
D'accord.
Donc j'étais une fanade parfum et je voulais absolument travailler dans le monde de la beauté.
Oui.
Et puis en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai un peu changé. Donc ensuite, après le bac pro, j'ai enchaîné avec un bachelor en marketing du luxe dans une école à Paris.
D'accord.
Après, je suis partie sur toute autre chose. Je suis allée en master en histoire parce que je pensais travailler au patrimoine des maisons de luxe. Donc voilà. Rien à voir, mais c'était
passionnant. Mais quand même, c'était lié, parce que si tu nous dis que tu as fait un bachelor en marketing du luxe, il y avait quand même cette dimension...
Oui, ouais, exactement. C'était quand même lié. Enfin, mon parcours était tout tracé dans ma tête.
Ouais.
Mais en fait, une fois que je fais la chose, j'aime bien rechanger.
D'accord.
Et donc, en fait, après, je suis partie 2 mois à Londres pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, je me suis inscrite dans un master à nouveau, mais en management, du luxe et de la mode, toujours sur Paris,
ouais,
que j'ai fait en alternance, du coup, chez L'Oréal.
D'accord. Et donc, du coup, chez L'Oréal, qu'est-ce que tu faisais?
J'étais chef de projet. et je m'occupais en gros de créer des formations en ligne pour tout le personnel qui travaille dans des enseignes comme Nocibé, Sephora et qui revendent en fait nos produits tout simplement.
D'accord.
Pour les former mais à distance et de manière un petit peu plus fun que juste une présentation de fiches produits classiques. Quoi.
Ouais, je comprends. Pendant un an, deux ans
Je l'ai fait ça pendant un an et demi.
D'accord, ok. Donc aujourd'hui, tu as quel diplôme en fait ? Est-ce que le premier master, t'as été jusqu'au bout ? Quel est ton dernier diplôme en fait ? C'est ce master en management du luxe ?
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le master en histoire, c'était un master qu'il fallait faire en deux ans. C'était sur des recherches. C'était très. Enfin, le but, c'était de faire un mémoire de recherche à la fin.
D'accord, d'aller jusqu'au doctorat.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai fait qu'un an. Parce qu'au bout d'un an, je me suis dit, c'est sympa les recherches, mais alors, moi, être en bibliothèque et puis faire lire plein de livres, au bout d'un moment, non, je n'en pouvais plus.
Ouais.
Donc, je suis partie à Londres et après, je suis retournée en management plus traditionnel, plus école de commerce classique. Et c'est là où j'ai vraiment mes deux ans de master, pour le coup.
D'accord, ok. Donc, tu es à Bac plus 5. Et au tout départ, quand tu te... Alors, peut-être après avoir fait ton Bac pro esthétique, mais est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire ?
Ah oui, très précise.
Ouais.
Je voulais être directrice marketing de chez Chanel à 30 ans.
Vous voyez ? Ah bah effectivement, c'est hyper précis.
Ah, c'était super précis. J'avais mon vision board et tout. J'étais à fond là-dedans. Je voulais vraiment travailler pour cette marque qui, pour moi, était la marque de luxe par excellence. Et en fait, quand tu fais des stages, etc., tu te repositionnes plus sur d'autres métiers. Tu te rends compte que c'est un milieu qui est hyper concurrentiel. Que finalement, quand t'as pas fait forcément les grandes écoles, c'est un peu difficile de faire sa place.
Oui.
Et je pense tout simplement que j'avais pas aussi le caractère à avoir 3N+1 qui, pour commander un post-it, fallait demander à 3N+1 qui demande à 3N+1. Enfin, c'était des entreprises très structurées et je pense que ça me correspondait pas tant que
D'accord.
ça, en fait.
Ok. Donc, tu obtiens ton master management du luxe. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu travailles directement ? Si oui, dans quel domaine ? Enfin, quel est ton état d'esprit à ce moment-là, une fois que tu as ton diplôme ?
Alors, mon état d'esprit, c'est... J'ai plutôt confiance en moi. Je me dis, allez, j'ai plein de diplômes. J'ai quand même pas mal d'expérience entre mes stages, mes jobs étudiants, plus mes dernières années d'alternance. Donc, je me dis, ah, chouette, je vais trouver du travail super facilement. Donc, on m'a proposé, dans l'agence dans laquelle je travaillais pour L'Oréal, on m'a proposé un CDI sur Paris.
D'accord.
Mais j'en pouvais plus de Paris. Donc j'ai dit, oh non, je préférerais, je pense qu'à Tours, je vais trouver. Je vais retourner à Tours et je vais trouver.
Oui, de toute façon, tu te disais que tu allais trouver, donc ça te dérangeait pas, entre guillemets, de refuser le CDI.
Exactement, j'avais pas peur.
Oui.
J'ai des diplômes et de l'expérience et je suis super sympa. J'ai forcément trouvé un
Pourquoi
un
tu ne trouverais pas ?
Exactement. Et en fait, grosse désillusion, il se trouve qu'à Tours, il y a du travail dans plein d'activités, mais pas dans le secteur forcément du luxe ou de la mode ou de la communication. Enfin, c'était un peu plus difficile en tout cas que sur Paris. Donc du coup, j'ai commencé à passer pas mal d'entretien qui soit c'était moi qui finalement disais non, ça me plaisait pas, soit j'étais pas prise parce que surdiplômée ou au contraire pas assez d'expérience.
Ouais, compliqué.
J'étais vraiment entre les deux, donc c'était un peu une vraie désillusion. Donc j'ai fait à peu près peut-être 3-4 mois de chômage après mon alternance.
Oui.
C'était pas une période super facile parce que tu perds hyper confiance en toi en fait.
Bien sûr, surtout à la sortie des études quoi, tu dis mince.
C'est ça. Ce qui m'a rassurée, c'est de me rendre compte que j'étais pas la seule dans le cas en fait.
Ouais, ça m'étonne pas.
Beaucoup qui soit trouvent des jobs alimentaires en fait. Soit on ne trouve pas dans leur secteur ou c'est bouché.
Je ne sais pas si ça évolue actuellement, mais on est de la même génération quasiment. Et moi, c'est vrai, moi je me suis arrêtée à Bac plus 3. J'avais pas envie de continuer. Et il y en a plein qui me disaient, mais si, il faut continuer parce que si tu t'arrêtes à Bac plus 3, tu ne trouveras pas de boulot. Un master, tu trouveras du boulot. Bah, la preuve que non. Alors aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé. Mais en tout cas, à notre époque, la preuve que même avec un Bac plus 5, ce n'était pas si évident que ça de décrocher un job à la suite.
Parce que maintenant, beaucoup de gens font des études et il y a beaucoup d'écoles qui existent, beaucoup d'écoles privées. Donc, il y a plein de gens qui ont des masters, qui n'ont pas toujours forcément le niveau d'ailleurs, mais bon, qui ont des masters. Et du coup, c'est plus hyper différenciant. Aujourd'hui, je pense que ce qui est différenciant, c'est vraiment l'expérience de terrain et la personnalité et les convictions que tu as quand tu es en entretien. Et je pense qu'à l'époque, j'étais trop lisse en entretien. Je voulais trop plaire à tout le monde. Et du coup, on ne voyait pas forcément ma vraie personnalité. Et du coup, ça n'a certainement pas... aider pour me différencier et trouver un travail plus facilement.
Oui, je comprends.
Donc, je me suis retournée vers une start-up à l'époque qui a bien changé maintenant, mais qui à l'époque s'appelait Lou Gage avec Marine Deck, qui, euh, qui m'a proposé un peu mon premier job, on va dire,
oui.
Où j'ai été un peu son bras droit pendant quelques mois. L'idée, c'était que je découvre beaucoup le monde de la start-up. Je n'y connaissais rien vu que je venais que de grosses entreprises. Donc, c'était une expérience hyper chouette. Ça a duré quelques mois. Je crois que ça a duré 4-5 mois à peu près. Mm-hmm. Et après, j'ai continué quand même à passer des entretiens à côté pour obtenir un CDI. Ce qu'elle ne pouvait pas me proposer à l'époque. Donc du coup, j'ai été prise dans une radio en local.
D'accord.
Qui s'appelle Énergie.
Oui,
pour ceux qui
on connaît.
Pas. Donc Énergie, Nostalgie, Chérie FM. Et donc j'ai travaillé en gros comme chef de pub. Donc c'est un job de commercial hein, pour vendre ouais. des espaces publicitaires pendant pratiquement un an.
Ok. À cette période-là, finalement, tu t'étais entre guillemets résignée, je ne sais pas si le mot est le bon, à te dire, bon bah ok, j'aurais pas pour l'instant ce job dans le luxe parce que ici à Tours, ouais. c'est pas possible.
C'est exactement ça. Et en fait, j'avais perdu vraiment confiance en moi. Je me disais que je ne savais rien faire en fait.
Ouais.
Et donc, j'ai passé des entretiens dans des postes qui me plaisaient pas plus que ça, mais je me disais au moins j'aurais un job. Enfin, quand on te demande en soirée, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis au chômage. Des fois, c'est dur à assumer, en fait.
Ouais, je comprends.
Je suis très contente d'avoir le chômage et j'adore la France pour ça, pour se dire que quand tu bosses, t'as le chômage après. Mais c'est vrai que c'était pas hyper valorisant, surtout quand tu sors d'études, tu te dis qu'est-ce que j'ai raté. Quand tu vois tes amis qui, eux, travaillent chez Dior, Guerlain et compagnie, tu te dis mais pourquoi moi, ça marche pas, quoi.
Et t'avais cette volonté de rester à Tours parce que peut-être que tu aurais trouvé plus facilement. Alors, Paris, tu nous disais non, mais il y a peut-être d'autres grandes villes où tu ouais. aurais trouvé. Enfin, t'avais vraiment cette volonté de rester ici.
Ouais, en fait, c'est une période où je me suis mise en couple aussi.
D'accord.
Et je pense que. Alors, c'est pas la faute du couple, hein. J'aurais pu choisir de partir. J'ai eu un poste qui m'a été proposé chez Chanel.
D'accord.
En Auvergne, que j'ai refusé parce que je me voyais pas du tout aller en Auvergne.
Mais comment ça ? Moi, j'ai fait mes études à Clermont, c'est très bien l'Auvergne.
je suis désolée, mais moi, ça ne me vendait pas trop du rêve à l'époque. Et donc, du coup, comme j'étais en couple, c'est difficile parce que ouais, quand tu sors d'études, t'as quoi, 23, 24 ans ? Tu commences à être dans la vie active, tu commences peut-être à être en couple un peu plus sérieusement. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte ou qui bousculent un peu tes décisions, je pense. Et comme j'avais fait quand même 5 ans en faisant les allers-retours Tours-Paris tous les jours, en fait, je prenais le train.
Ah oui, d'accord.
Voilà, je partais à 6h, je rentrais à 21h.
Ah oui,
et
wow.
du coup, je pense que Paris, ça m'a un peu dégoûtée des horaires de travail. Enfin, puis, ouais, je sais pas, c'était... J'avais l'impression de mieux vivre en étant à Tours. Et déjà, à ce moment-là, j'étais hyper consciencieuse du fait qu'il fallait prendre soin de soi et de sa santé et de son mental. Et qu'il fallait quand même garder un certain art de vivre, on va dire. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment être à Tours. Mais oui, certainement que ça m'a fermé des portes. Oui, certainement que j'aurais trouvé plus facilement. Mais je pense que je suis une tête de mule. Donc,
oui, bah, puis en même temps, ouais, les choses ne se font pas justement par hasard. Ça s'est fait comme ça. Et puis ton parcours,
c'est ça.
Voilà, ce que tu as fait avant fait ce que tu es aujourd'hui. Oh, c'est beau, Emily.
C'est très beau. Merci, Emily, pour ce moment philosophique.
Donc, du coup, tu nous parles de quelques mois dans la start-up de Marine chez Lou Gage. Ensuite, tu as décroché un CDI, c'est ça, chez Energy. Pendant un an, tu nous disais, tu es restée là-bas ?
Oui, exactement.
OK. Et donc ensuite ?
Covid.
Ah.
Ouais. Donc, mars 2020. On est chez nous. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont très mal vécu. Moi, c'était la meilleure période de ma vie, je pense.
Oui, pourquoi ?
Il faisait beau. J'avais un jardin. J'avais la chance d'être en location où on avait un jardin. Donc, on a beaucoup profité de se retrouver, déjà, parce que je vivais en couple.
Oui.
Donc, de se retrouver, d'être moins dans la tête, dans le guidon avec le travail, de plus avoir des réunions qui, parfois, ne servent pas toujours à grand-chose. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les cases de l'employé modèle, en fait. Donc,
ouais.
Du coup, j'avais du mal avec la hiérarchie, j'avais du mal avec les réunions où tu es là, attendre que ça se passe.
Ouais, ça nous est tous arrivé, voilà. Cette réunion inutile qui aurait pu être remplacée par un mail ou un message.
Voilà, c'est ça. Donc, du coup, moi, je revivais. Et comme j'avais déjà en tête le projet Maison Pan depuis octobre, c'était vraiment le moment de se dire, vas-y, en fait. Fonce et travaille à fond dessus. Donc, ça m'a permis vraiment de me poser sur le business plan, sur trouver des fournisseurs, sur trouver un local, etc. D'annoncer aussi à mon employeur que je partais.
Oui.
Donc, de faire. Là, pour le coup, j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle, en fait.
Oui, ok.
Donc, ça, c'est hyper chouette. et donc de toucher le chômage après.
Bah oui, ça permet de voir venir. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Du coup, tu nous parles que tu as eu cette idée du projet Maison Pan. Alors, certaines personnes qui nous connaissent toutes les deux sauront de quoi tu parles. Est-ce que tu peux quand même revenir un petit peu sur la genèse de cette idée que tu as eue ? Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais envie ? Parce que Maison Pan, on le rappelle, c'est une boutique aujourd'hui, une boutique de papeterie et art de vivre à Tours, dans le 37. Mais comment tu as eu cette idée, ce projet ? Comment c'est venu ? Est-ce que depuis toujours, tu savais que tu voulais monter ta boutique ? Enfin, voilà, raconte-nous.
J'ai toujours su que j'allais entreprendre.
D'accord, ouais.
Pendant mes études, d'ailleurs, quand j'étais du coup en master en histoire, à côté, j'avais fait un programme qui était proposé par l'université pour être étudiant entrepreneur.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que tu peux continuer tes études, valider tes diplômes et en même temps créer ton entreprise et être accompagné par les entreprises, enfin les entrepreneurs en local, par des profs, je ne sais pas,
ouais,
d'économie, de gestion, etc.
Donc, tu avais déjà cette idée de te dire un jour, j'aurai ma boîte.
Ouais, c'est ça.
Tu savais dans quel domaine ?
Alors, pas du tout, parce qu'à la base, c'était dans le domaine du parfum sur mesure.
Ouais,
donc,
d'accord.
Il y avait quand même l'idée d'une boutique où tu arrivais et tu pouvais créer ton parfum sur mesure directement en boutique en partant de base. Ouais. Voilà, mais il fallait être accompagné par un nez, c'est des investissements
ouais, c'est
énormes de création. Donc voilà, j'étais toute seule, enfin j'étais jeune, j'avais pas encore beaucoup d'expérience, donc c'était pas le moment pour le faire, mais ça m'a donné un peu un pied à l'étrier, on va dire.
Ouais.
Donc ça, c'était hyper chouette. Donc je savais qu'à un moment, j'allais entreprendre. Je savais pas du tout si j'allais être auto-entrepreneur ou en freelance ou si j'allais avoir une grosse boîte. Enfin, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et il s'est trouvé que du coup, en octobre 2019,
ouais, c'est juste ça, avant.
Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un soir sur mon... J'ai toujours un carnet à côté de moi et j'ai eu cette idée de dire... ah ouais, ça serait chouette quand même d'avoir un truc à moi, une boutique, pourquoi pas. J'avais fait tous mes jobs étudiants en boutique, j'avais travaillé pour plein d'enseignes différentes,
ah oui, d'accord.
Que ce soit Agatha, Nafnaf, H&M, j'avais été beaucoup au Printemps, Nocibé, etc.
Ouais.
Donc j'avais fait pas mal de jobs étudiants.
Tu connaissais cette relation commerciale, enfin
j'avais déjà été dans le
rapport commerçant-client. Ouais.
En tant que vendeuse, conseillère, mais pas forcément en tant que... je ne savais pas comment ça se gérait du tout, une boutique.
Oui,
quoi.
Ça, bien sûr. Mais déjà, je veux dire, tu avais le relationnel, parce que oui. Ça, c'est pas rien, c'est hyper important. On en reparlera peut-être, mais...
Ouais, tout à fait. Par contre, il y avait le relationnel et qui... je sais pas, ça faisait partie de moi. C'était un peu, là, une intuition. Enfin, c'est un truc que tu ressens en toi, tu vois. Tu
ouais.
Te dis, ah ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas comment expliquer,
ouais, mais
c'est
on
un
comprend,
truc qui
comprend.
Vibre en toi.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé à dessiner sur mon petit carnet. Alors, au début, c'était un énorme concept store sur 3 étages.
Avec ouais, ça évolue hein, quand on a des idées.
Voilà, au début, tu vois très grand. Je suis comme ça. Moi, je vois souvent très grand, des idées un peu folles. Et après, je réduis un peu au fur et à mesure de mes possibilités.
Ouais.
Tu vois. Et donc, ça a commencé comme ça sur ce carnet. Et puis, à un moment, je regardais sur Le Bon Coin, tu vois, les locaux qui étaient disponibles.
D'accord,
et tout.
Ouais.
Puis, il y en avait. Et puis, je me disais, ah ouais, en fait, il y a ça pour les jeunes entrepreneurs pour avoir des prêts à la banque.
Ouais,
puis, il y a tel concours.
Choses.
Et puis, quand tu es une femme, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses pour les
c'est
femmes
vrai.
Entrepreneurs. Donc, il existait plein de trucs. Et je dis, mais en fait, tu peux le faire, quoi. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Donc, octobre, novembre, décembre. Donc, comme je suis madame, 1000 idées à l'heure. Forcément, les gens, ils rigolaient un peu en mode « Oui, bah, c'est comme le reste, t'as plein d'idées, mais tu fais pas. » Donc, du coup, personne n'y croyait vraiment, surtout pas mon conjoint.
Ouais.
Et donc, pendant le Covid, forcément, je me mets à fond.
Ouais.
Et mon conjoint qui voit le Covid et qui dit « Mais tu peux pas quitter un CDI maintenant, on sait pas où ça va nous mener, cette histoire, tu te rends compte ?» Enfin, non, tu dois pas le faire, quoi.
À la fois, tu peux pas quitter un CDI, et puis l'idée de la boutique, c'est quand même un commerce. À l'époque, on pouvait plus sortir, enfin, il y a double...
voilà, tout était fermé.
Double challenge, quoi.
Exactement. Mais moi, j'étais convaincue de mon truc. Tu
ouais.
vois, je me suis dit, OK. Enfin, je me rappelle, on avait été visiter les locaux avec mon père et mon conjoint.
Ouais.
Et mon père, il me disait, mais attends, mais il n'y a personne dans cette rue. Tu ne vas pas ouvrir là. Puis de toute façon, ça va être trop compliqué. Ce n'est pas possible. Et puis avec le Covid, et puis ceci. Puis mon conjoint, il me dit, mais en plus, tu as un CDI. Tu te rends compte tous les gens qui te tueraient pour avoir un CDI. Enfin, tu as une voiture de fonction, tu as un ordinateur, tu as un portable. Ouais, mais non, en fait, je m'en fous. Moi, j'avais envie de faire autre chose. Je savais que c'était le truc. Je savais pas l'expliquer, mais je savais que c'était ce local-là qu'il me fallait. Je savais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et
bah, j'ai envie de dire, il faut savoir s'écouter aussi. Enfin,
ouais.
Si à ce moment-là, tu sentais que c'était bien. Et puis, eux, je pense qu'avec le recul, peut-être que c'est ce que tu dis. De toute façon, ils veulent le meilleur pour toi, tes proches. Mais eux pensent aussi à toutes ces choses-là qui pourraient t'empêcher de mettre des bâtons dans les roues. Et ils étaient peut-être même plus stressés que toi à l'idée que tu entreprennes et que tu te lances, quoi.
Ouais. Et bah, d'ailleurs, on en parlait avec une de mes collaboratrices, le toit, où elle me dit « Alors, t'as le projet, mais moi, je vois les problèmes, alors que toi, tu vois aucun problème,
ouais.
Tu fonces. » Et c'est vrai que moi, j'ai cette capacité à transformer les choses plutôt en opportunités et à y aller. Alors, ça veut pas dire que je me foire pas. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
J'ai
ouais,
raté aussi.
Pas.
Hein. Mais j'y vais et je verrai bien. Enfin, je suis un peu « Oui, bah, si ça marche, tant mieux. Et puis, si ça marche pas... » De toute façon, je finirais pas sous les ponts, quoi.
Tout état d'esprit a ses avantages et ses inconvénients. On se connaît bien. Et effectivement, toi, t'es très comme ça. Et moi, je suis pas du tout. Je suis à l'opposé. Et il n'y a pas une situation ou un état d'esprit qui est mieux que l'autre. Il y a des choses que toi, tu vas faire à un moment donné. Je vais me dire, mais moi, j'aurais jamais osé. Elle a osé, ça marche. Et à l'inverse, des fois, tu te dis, peut-être que j'aurais dû faire un peu comme Émilie et réfléchir plus ou me dire, bah ouais, mais peut-être que ça va pas marcher à cause de ça. Donc, je vais réorienter. Enfin, tu vois, oui. Je pense que. Puis, on se nourrit aussi des rencontres qu'on fait, des gens avec qui on est. Donc, c'est bien d'avoir su t'écouter à ce moment-là. Parce que, donc, du coup, les choses évoluent, les mois avancent, le projet prend forme.
C'est ça. Et on ouvre. En 1er juillet 2020, j'ouvre la porte de la boutique. Quoi.
Entre deux confinements, je ne sais même plus.
Deux confinements, parce qu'on a été reconfinés en novembre.
Oui, d'accord.
Autant te dire qu'en novembre, j'ai pleuré. Hein, ça a été annoncé à la télé, j'étais à la boutique. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, mais il y a Noël qui arrive, j'ai 20 000 euros de marchandises dans la réserve, comment je fais? Donc là, j'ai paniqué. C'est le moment où je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? J'étais toute seule. Heureusement, ma mère est venue m'aider un milliard de fois, mais vraiment, là, pour le coup, tu te poses des questions.
Bien sûr, mais puis c'est normal. Enfin, ouais. Tu ne pouvais pas prévoir que de nouveau, on allait être reconfinés. Et...
Bah, surtout même pas si... avant Noël, quoi.
Ouais, c'est ça, qui est une période hyper importante. Alors, on a un petit peu squeezé cette partie, mais donc du coup, t'as ton projet qui prend forme. Tu fais une demande de rupture à ton employeur. Comment ça se passe? Dans quel ordre, en fait, tu fais les choses sans rentrer vraiment précisément dans tous les détails de comment t'as monté le projet, mais dans quel ordre un peu ça se goupille tout ça?
Dans le mauvais ordre.
D'accord.
Parce que je signe d'abord le local pour avoir le bail avant de faire ma rupture de contrat et avant d'avoir le prêt de la banque.
Donc, j'adore, mais ça, c'est Floriane tout craché. Mais comme quoi, ça a marché.
Du coup, je n'avais surtout plus le choix parce que tu as signé quand même.
Bah oui, bien sûr.
Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un propriétaire plutôt cool et qui m'avait dit en gros, mai, juin, juillet, tu ne payes pas le loyer. À côté de ça, tu me fais des travaux de ouf. Donc j'ai fait les travaux, mais en contrepartie, lui, il ne me faisait pas payer le loyer. Donc en fait, j'avais quand même du temps derrière moi pour me dire où j'avais pas de charge énorme sur le moment.
C'est important
ça
de se dire ça.
Exactement. Ouais. Et donc après, j'ai demandé ma rupture. Je rentre de Lyon, mon conjoint qui me dit « Ah, ils ont accepté, oh mince, mais j'ai entendu à la radio que le Covid, non, non. » Il était trop en panique, mais je comprends, en même temps, on venait d'acheter un appart, enfin, c'était pas le moment, quoi. Et après, ça va, il s'est rendu compte que quand même, ça tenait la route, mon truc, il m'a aidé beaucoup sur le business plan, etc. Ouais. Donc, il a vu que je partais pas non plus à l'aveugle.
Bah, puis de toute façon, encore une fois, évidemment qu'il avait envie que ça réussisse, c'était juste cette appréhension de se dire «
Ouais,
voilà,
c'est ça. » Exactement, mais du coup, il m'a beaucoup soutenue, etc. Et donc, voilà, ça s'est fait étape par étape. Et en fait, tout le mois de mai, où on était encore un petit peu confinés, les travaux ont quand même commencé. Parce que les gens qui travaillaient dans le bâtiment pouvaient quand même aller travailler. Donc du coup, on a pris un artisan qui nous a beaucoup aidés sur la peinture et tout. Puis après, on a fait avec les copains qui sont venus. On avait notre petite autorisation de sortie pour aller faire les travaux. Et donc du coup, on a fait comme ça et j'ai pu ouvrir le 1er juillet.
D'accord, très bien. Voilà. Alors comment ça s'est passé sur ces premiers jours, premières semaines d'ouverture dans cette période un peu particulière? Parce que mine de rien, la vie n'était pas normale à ce moment-là, même si on était déconfiné.
Ouais, exactement. Alors j'ai eu un hyper bon accueil. Les gens étaient en fait ravis de retrouver des commerces de proximité parce que du coup, la boutique, la première, elle se situait en centre-ville, dans une rue pas du tout commerçante, mais quand même à proximité des halles, du marché, etc. Donc malgré tout, les gens continuaient à faire leurs courses.
Ouais.
Donc passaient régulièrement devant la boutique, il y avait une école. Donc même là, si c'était les vacances scolaires, il y avait quand même beaucoup de gens qui passaient dans le quartier. Donc les gens étaient ravis d'avoir un commerce de proximité, de voir quelqu'un plutôt jeune ouvrir. Les gens m'encourageaient beaucoup en disant bah, « c'est super, malgré le Covid, on voit des gens qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte, il y a quand même des choses qui... la vie continue, enfin voilà. »
Ouais, mine de rien, ça motive ça.
Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, j'ai eu un super accueil. Après, je sais pas trop comment j'ai réussi à faire du chiffre d'affaires quand je revois les photos de la boutique où il y avait pas grand-chose dedans. Mais ouais, il y a eu un soutien énorme, déjà de mon entourage, qui sont venus. Et puis de gens qui nous suivaient déjà depuis le début, en fait, parce que tout de suite, dès octobre, on a ouvert le compte Instagram. Et donc, dès octobre, les gens ont vu tout le cheminement, tous les
C'est bien de communiquer là-dessus, sur les coulisses, ça aide à
créer une communauté.
Voilà, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, à créer cette communauté qui fait que les gens te connaissent déjà un peu avant d'être venus dans ta boutique.
Exactement.
Est-ce que tu peux, parce que finalement, on parle un petit peu de Maison Pan, mais nous dire... qu'est-ce que Maison Pan? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quel est ton univers? Qu'est-ce que tu as voulu créer avec cette boutique?
Alors, au tout début, c'était un concept store, tout ce qu'il y a de plus classique, où il y avait de la mode, de la beauté, de la papeterie, du bijou, de la déco. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Je pense qu'au début, je voulais plaire à tout le monde et ressembler à tout le monde. Et en fait, je me suis vite rendu compte que moi, j'étais passionnée de papeterie, que j'adorais le beau papier, que j'achetais des carnets tout le temps. Et en fait, plus ça allait, plus les mois passaient, plus la papeterie prenait de la place dans la boutique. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, c'est ça qui me passionne. Les gens viennent beaucoup pour ça chez nous. Autant se concentrer là-dessus, faire un truc vraiment bien, vraiment quali. Et donc, j'ai éliminé la mode, la beauté. J'ai gardé juste, en gros, les idées cadeaux, déco et beaucoup de papeterie.
D'accord.
Donc, c'est 80% de mon chiffre d'affaires, c'est la papeterie aujourd'hui.
OK.
Et en fait, ça a permis vraiment de se nicher, de mieux communiquer et de créer une vraie communauté et surtout de fidéliser à fond, en fait.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, chez Maison Pan, tu vas retrouver des jolis carnets, des cartes, des puzzles, mais tout ça dans un univers qui reste quand même très féminin, ce qu'on peut me reprocher un peu parfois.
Ah oui, d'accord.
Ouais, aujourd'hui, il y a des hommes qui viennent chez nous qui disent « Ah, vous n'avez pas un truc plus masculin ?» Bon, ok, ou même pour faire des cadeaux. Donc, on essaye de proposer un peu plus ce genre de produit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très fleuri, il y a beaucoup de roses, ce qui rentre peut-être parfois dans les stéréotypes du féminin, ce que je ne cherche pas du tout à faire. Mm-hmm. Mais dans l'inconscient des gens, c'est des fleurs, c'est rose, c'est pour les filles.
Oui.
Même si aujourd'hui, les choses tendent à changer, ça reste quand même beaucoup comme ça. Donc, on essaye d'avoir des choses un peu plus neutres, un peu plus mixtes, on va dire. Mais ouais, on retrouve principalement ce genre de choses. Et puis tous les mois, quasiment, on fait un atelier au sein de la boutique qui a un lien soit avec la décoration, soit avec la papeterie. Donc ça va être des ateliers couronne de fleurs, des ateliers d'écriture. C'est une façon de faire découvrir la boutique un peu autrement, de rester hyper lié à ses clients et de proposer un peu autre chose, en fait, pour se démarquer aussi de ses concurrents. Et
c'est bien parce qu'à ses débuts, on le fait tous. On a tous envie soit de plaire à tout le monde ou de ne pas se fermer de porte, en fait. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on évolue aussi, on change, on prend du recul et puis on affine un peu le projet pour que ça devienne quelque chose qui est plus dans nos valeurs et qui reflète plus notre personnalité. Et est-ce que tu pourrais nous parler pas forcément de relations clients. Je sais que tu as fait justement un épisode avec Marine. Tu nous parlais tout à l'heure de Marine de Louguette, qui a un podcast qui s'appelle Le Client, qui est très intéressant sur la relation client. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode qu'elle a fait avec Floriane, mais nous dire un petit peu comment tu vois cette relation client. Parce que moi, avant d'être copine et de se connaître au tout début de Maison Pan, on ne se connaissait pas très bien finalement. On n'était pas du tout copines. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment vu l'accueil. Et même si toi, tu ne le ressens pas de cette façon aussi bien que maintenant, il y avait l'accueil qui pour moi te différenciait. C'est pas comme dans toutes les boutiques. Tu as vraiment cette volonté d'accueillir tes clients d'une façon bien spécifique. Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, tu n'es plus rue Néricot des Touches à Tours, mais tu t'es déplacée de rue et ta boutique, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était au tout début. Donc tout ça, c'est dans vraiment une volonté d'avoir un cocon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça au-delà des produits que tu proposes?
Alors en fait, dès le départ, déjà j'ai eu la chance de travailler dans l'univers du luxe et donc d'être hyper formatée au service client.
Ouais.
Le client est, quand on dit client est roi, là pour le coup dans le luxe ça se ressent vraiment. Et donc j'ai tout de suite été habituée à faire ce qu'on appelle les cadeaux clients, les petites cartes de remerciement à la main, de vraiment les chouchouter, de leur faire vivre une vraie expérience en fait. Que c'est pas juste un produit qu'on leur vend, mais un univers, ouais, une marque complète, une histoire, un patrimoine. Enfin voilà, on m'a tout de suite formatée à ça. Et à côté de ça, je faisais des jobs étudiants dans des enseignes pas du tout luxe, plus mass market en fait.
Ouais.
Et où là, c'était plus la même affaire. Le client était toujours chouchouté, mais d'une autre façon. Et où on nous apprenait plutôt à ce que la boutique soit très belle, très bien tenue. Mais on ne prenait pas forcément le temps d'accueillir chaque client parce que déjà, il y a beaucoup plus de flux. Et en plus, ce n'est pas tout simplement pas ce qu'on nous demande dans ce genre de boutique. Donc du coup, j'avais les deux penchants. J'avais à la fois mes études et mon stage et mon alternance qui m'a appris à mettre le client sur un piédestal. Et à côté, une façon de vendre qui était peut-être plus... en libre service, donc
moins personnalisé.
Exactement. Donc du coup, j'avais ces deux points de vue-là. Et quand moi, j'ai créé la boutique, je voulais à la fois retrouver la possibilité de faire du libre service et laisser les gens flâner comme ils avaient envie de le faire.
Ouais.
Et en même temps, de retrouver tous ces codes du luxe qui sont hyper séduisants, qui font la différence, qui te permettent de te démarquer, qui te permettent de marquer les esprits. Et donc, c'est pour ça que j'ai accordé tout de suite beaucoup d'importance à l'accueil, qui est primordial. Une boutique, on te dit juste bonjour, juste au revoir, bah tu t'en souviens pas, ou alors tu te souviens que des défauts.
Ouais.
Alors qu'une boutique qui est peut-être pas parfaite, mais où t'as beaucoup parlé avec la personne qui était en boutique, qui a la suite conseillée, qui t'a écouté, qui t'a proposé le produit parfait, tu vas forcément t'en souvenir et potentiellement revenir.
Bien sûr, ouais.
Donc, c'était hyper important pour moi de faire ça, au-delà des produits, du merchandising, même si au fur et à mesure, on l'a travaillé. Mm. C'était vraiment la première chose. Et quand j'ai un nouveau collaborateur qui arrive, même juste en stage, il y a une semaine, on travaille que l'accueil.
Ouais, mais c'est primordial parce que c'est tes clients qui vont acheter. Donc, si tu les accueilles pas correctement, s'ils n'ont pas envie de revenir, ben, c'est perdu. Quoi. Donc,
c'est ça. Et malheureusement, on le voit dans trop de boutiques, en fait, même des marques très connues,
ouais.
Où les gens ils sont sur leur téléphone ou ils ne te regardent même pas. Ou, si vous avez des questions, je suis là, point. Mm. Ça ne vend pas trop du rêve, surtout que les clients, ils aiment bien parler. Hein. On a beau dire, ouais. Alors, oui, il y en aura toujours qui voudront être tranquilles, mais il y en a beaucoup qui aiment beaucoup parler. Et souvent, plus tu l'écoutes, plus tu peux lui proposer quelque chose qui lui correspond et le satisfaire et qu'il soit content, en fait. Donc ouais, non, c'était important. Et tous les petits gestes qu'on fait à côté, c'est bête, mais nos sacs, on a pris beaucoup de temps à les préparer pour que ça soit le plus confortable pour nos clients quand ils le portent après, pour que ça reste joli, pour qu'ils aient envie de l'offrir comme ça, qu'ils le gardent, qu'ils reviennent avec, enfin... Voilà, c'est des petits détails, mais qu'on m'a appris dans le luxe et qui, je trouve, sont hyper importants et qu'on peut faire à petite échelle et pour satisfaire nos clients, quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord. Moi aussi, c'est tous ces petits détails, même dans mon métier, ça passe par ces petits détails-là pour aller séduire le client. Et moi, la première, j'aime plutôt qu'on me laisse tranquille quand je rentre dans une boutique. Par contre, tous ces petits détails-là, je vais y faire attention. Le beau sac, la façon dont tu es accueilli, peut-être appeler les clients par leur prénom, certains que tu connais, enfin... Ça a un impact fou et c'est bien de parler de ça parce que souvent on se dit vendeur en fait, vendeuse, c'est facile en fait, tout le monde peut le faire. Et ben non, je vous garantis que non, c'est un vrai métier et accueillir le client et enfin voilà, ça s'apprend et c'est pas rien en fait, ça demande des vraies compétences et voilà. J'ai une petite question, je sais pas si on en avait déjà parlé, si on en a certainement déjà parlé, je pense qu'on te l'a déjà posé plein de fois, mais c'est pas grave, je vais te la poser, pourquoi Maison Pan?
Le nom, tu veux dire ?
Évidemment, oui, pourquoi ?
Du coup, je reviens à dire, ayant travaillé dans le luxe, on parle souvent de maison de couture, de maison de luxe. Donc, le mot maison était sûr et certain.
D'accord.
Je le voulais absolument.
Ouais.
En plus, à l'époque, on travaillait autour de l'univers de la maison, avec la déco, etc. Donc, forcément, il fallait le mettre.
Mmh.
Ensuite, le paon, c'est un animal qui est majestueux, qui est magnifique et qui représente plein de jolies valeurs comme la bienveillance, le renouveau, la rareté. Et que ce soit dans des contes ou dans l'aspect catholique, enfin, il y a plein de choses autour du paon qui sont vraiment très, très belles et que je voulais vraiment mettre en avant parce que je savais que mon entreprise, elle allait grandir à un moment donné. Et si j'avais des gens avec qui je travaillais au quotidien ou même tout simplement les fournisseurs avec qui je travaille, j'ai envie qu'ils aient ces références-là et qu'ils savent que chez nous, c'est comme ça. Et, et c'est, voilà, ça a du sens, en fait, derrière. C'est très joli. Personne n'arrive à le prononcer. Hein, maison,
ah bon ?
Pas en...
pourtant.
Ouais, des fois, il y en a qui n'arrivent pas à le prononcer. Mais tant pis, c'est... Même les couleurs, tu vois, ça aide beaucoup pour après tous les petits détails comme nos sacs, nos couleurs, nos choix de peinture, de cartes de visite, etc. Ouais, c'est un animal qui est quand même très beau.
Ok, très bien. Alors, j'aimerais revenir aux produits en eux-mêmes que tu proposes. Comment tu sélectionnes les marques avec lesquelles tu travailles ? Quels sont tes critères ? L'idée pour connaître la boutique, c'est que l'intérêt, c'est d'aller chercher, je pense, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, des marques qu'on ne voit pas ailleurs ou qui ont une histoire, qui ont un sens. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment tu sources tes partenaires ?
Alors, disons qu'il y a deux ou trois grandes catégories.
Ouais.
Il y a une première catégorie de marques un peu plus connues, que je choisis pour l'aspect esthétique essentiellement. Souvent, ils ont des valeurs éthiques en plus derrière, mais c'est surtout des marques un peu... locomotive, tu vois. C'est les marques pour lesquelles les gens viennent.
D'accord.
Parce qu'ils les connaissent déjà, ils les suivent sur Instagram, ils ont déjà eu des cadeaux de chez eux, etc. Donc, ils viennent pour ça. Donc
d'accord.
Ça, c'est un peu nos marques essentielles qu'on est un peu obligé d'avoir dans l'univers de la papeterie, en tout cas. Ensuite, il y a une autre catégorie qu'on va choisir plutôt parce que elles sont soit en local, soit c'est des petites marques, des petits créateurs qui proposent des choses un peu différenciantes qu'on ne voit pas partout, qu'on est sûr qu'au moins elles seront chez nous, en tout cas sur une courte période, mais qu'on ne va pas les voir partout. Donc ça va être plus sympa. Et après, on a une collection qu'on a en fait tous les mois.
D'accord.
Sur laquelle on va mélanger plutôt des marques entre elles au travers d'un thème.
Okay.
Et là, ça peut être de tout. Ça peut être des très grandes marques à côté de petits créateurs, à côté de personnes qui font juste un one-shot comme ça, juste pour nous. Voilà. Enfin, et au niveau du sourcing, on le fait beaucoup par Instagram.
Ouais, ok.
Après, on a la chance d'avoir aujourd'hui des plateformes en numérique qui sont des plateformes de grossistes qui mettent en avant toutes les marques, beaucoup de marques qui ne peuvent pas se faire connaître, qui ont du mal à se faire connaître,
ouais,
qui sont dessus en fait et qui te sont proposées directement. Qui te permettent de les tester, de ne pas avoir forcément beaucoup de frais de livraison, ce genre de choses.
Oui.
Donc nous, on travaille beaucoup avec ces plateformes-là. Et après, des fois, ça va être juste les rencontres, les coups de cœur. On va voir un truc sur Instagram, ça va nous emmener sur autre chose. Puis finalement, la fille, on va se dire « Ah, mais en fait, la créatrice, elle est à Tours, bah, je la rencontre. » Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve à proposer des petites marques qui ne sont pas connues et qui sont hyper chouettes et qui demandent qu'à être reconnues, quoi.
Ouais, mais c'est ça qui est bien, de pouvoir effectivement avoir ces marques que tu connais et puis d'autres que tu connais moins, qui vont faire que tu vas les découvrir chez toi, peut-être les aimer, les racheter. Et donc, c'est super intéressant, ouais.
Le but, c'est d'avoir vraiment un mix des deux. On peut pas faire soit l'un soit l'autre.
Bien sûr,
en
fait,
parce que il y en a un cas où du coup tes marques on va les retrouver ailleurs. Mm-hmm. Et il y a l'autre cas où malheureusement on parle aussi d'une entreprise qui a besoin d'être rentable, et sur un petit créateur, tu peux pas forcément faire beaucoup de rentabilité.
Ouais, c'est sûr.
Donc l'équilibre des deux, il est quand même hyper important. Les clients le comprennent, ceux qui veulent acheter que du créateur, on les dirige vers ça, ceux qui s'en fichent, ils prennent l'autre. Il y en a qui viennent que pour une marque en particulier, qui ne viendront jamais t'acheter autre chose.
Ouais.
Mais ça a besoin d'avoir cet équilibre. Je trouve qu'il est important.
OK, très bien. J'aimerais parler un petit peu du rapport commerce en ligne, boutique, rapidement. Tu as ouvert, toi, pendant le Covid, je crois aussi que tu as ouvert du coup une plateforme ou un site en ligne où on pouvait acheter directement pendant le Covid, hein, c'est ça. Mm-hmm. C'est le Covid, je crois, qui t'a fait basculer. Est-ce que tu as maintenu ce site internet? Comment tu vois les choses par rapport au fait que les gens achètent en ligne, viennent en commerce? Quel est ton état d'esprit par rapport à ça, et comment tu reçois, toi qui es vraiment au contact direct des clients?
Alors, oui, en effet, j'ai ouvert le site du coup en novembre 2020.
Oui.
On annonce le Covid. Deux jours après, j'avais Manon qui travaillait sur mon site et je lui dis
action-réaction.
Voilà, c'est ça. Fait en sorte que ça arrive. Et du coup, 15 jours, elle a travaillé de manière matin, midi et soir, clairement sur mon site, pour sortir un truc un peu joli et qui fonctionne bien et qui permette de faire et du click and collect et de l'envoi. Voilà, ouais. C'était hyper bien fait et hyper chouette. Et en fait, du coup, je l'ai gardé. Au
D'accord.
début, je voulais pas du tout faire du e-commerce. C'est un métier à part entière. C'est une relation totalement différente avec tes clients.
Oui.
Il y a un parcours client à créer qui est hyper complexe. Faut imaginer qu'un site internet, c'est 2% de visiteurs qui achètent généralement sur ton site. Enfin, si t'arrives à 2% d'achat au vu de tes visiteurs,
c'est bien.
C'est déjà très bien.
Ouais, d'accord.
Voilà. Moi, pour te donner une idée, je suis à 0,9%.
Ouais, je pensais pas que les chiffres étaient comme ça. Ouais.
Moi, je suis très très basse, mais parce que je cherche pas à le développer en
aujourd'hui. Bien sûr.
On en voit vraiment partout en Europe. Hein. On en voit beaucoup en Italie, on en voit en Suisse, on en voit en Belgique. On a fait Angleterre, toi, on en voit à New York aussi.
Mais les gens te trouvent en fait?
Alors, tout simplement par Instagram.
Ah ouais,
du coup,
fou,
on a
ça.
Développé la communauté sur Insta. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent vraiment un univers.
Mm-hmm.
Et donc, je pense qu'au travers de nos stories, des marques qu'on met en avant, etc., on a réussi à créer un peu une image de marque.
C'est hyper
qui
chouette, ça.
Beaucoup. Et ouais, je pense que les gens viennent beaucoup pour ça. Après, c'est très concurrentiel, Internet.
Mais c'est pour ça que je te pose la question, comment ils te trouvent, toi? C'est pas du tout péjoratif, mais tu vois, à Tours, enfin, site en ligne, qui est quand même rattaché à une boutique Tourangelle, comment les gens arrivent d'Italie, de New York, d'Angleterre à tomber chez toi, quoi, sur
déjà,
ton site?
Il y a beaucoup de référencement Google, on a bien travaillé là-dessus.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je vois que je le fais moins en ce moment, et je vois bien que j'ai moins de ventes que d'habitude.
Ah ouais.
Et je pense vraiment que c'est Instagram.
Ouais.
Parce que, en plus, tu peux le voir d'où viennent les gens.
Ouais, c'est
donc,
bien.
Quand ils cliquent, tu vois que ça vient d'Instagram. Donc,
okay.
Donc du coup, c'est plutôt comme ça que je pense que je me suis fait connaître. Il faut que je leur pose la question directement.
Ouais,
ça serait intéressant.
Demander.
Après, il y a eu des gens aussi, des Espagnols qui étaient venus l'année dernière à la boutique, qui ont acheté chez nous et qui ont recommandé en fait,
super,
une
ça.
Fois arrivé à Barcelone.
Ouais, trop
donc,
bien.
Donc, ça, c'est cool. Et qui disent qu'il n'y a pas ce genre de boutique partout
là-bas.
En Espagne. Enfin, c'est différent. Les univers sont un peu différents. Donc du coup, peut-être qu'un jour, il y aura un maison pan en Espagne.
Qui sait,
qui sait. Mais voilà, après, en termes de commerce, les gens à Tours, ils viennent voir ton site, ils regardent ce qu'il y a sur ton site et après, ils viennent en boutique. Ils disent, ah, j'ai vu ça sur votre site, j'aimerais bien l'acheter. C'est pas la majorité de mon chiffre d'affaires. Ça peut être développé, ça peut être très bien développé. Il y a des marques qui le font très bien, type les raffineurs. Ils ont commencé d'ailleurs en ligne et maintenant, ils ont des boutiques. Cézanne, c'est pareil. Donc je pense que, oui, il y a quelque chose à faire, mais je pense que c'est... presque une deuxième entreprise, en fait.
Ah oui, totalement, je suis d'accord avec toi.
Et, et mes clients sont plutôt proches de nous, aiment le côté proximité, aiment venir en boutique pour l'accueil, aiment venir en boutique parce qu'ils savent qu'ils ont du conseil, qu'ils peuvent toucher les produits, qu'ils peuvent les voir en vrai. Donc, je pense que c'est une vraie force pour nous d'être en centre-ville, dans un commerce de proximité.
Oui.
Après, il y aura toujours des gens qui vont préférer acheter sur Amazon que venir en centre-ville parce que c'est compliqué de se garer, parce que ça coûte cher de se garer, parce qu'il y a du monde, parce que... Okay.
Oui, il y aura toujours des gens qui vont être
comme ça. C'est certain. Je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut faire avec. Il faut plutôt, toi, t'adapter et proposer des services peut-être en ligne, comme nous, on a fait avec le click and collect, avec l'envoi. On fait des petits mots à la main pour personnaliser nos envois et tout. Même que si tu veux envoyer une copine à Lille, on le fait pour toi, etc. Donc, je pense qu'il faut plutôt s'adapter et faire avec, surtout que maintenant, avec tout ce qui se passe, avec la réalité augmentée et tout, même les marques de luxe hein, s'y mettent, elles créent des magasins
en ligne virtuels
où
tu
peux visiter, tu peux acheter des trucs digitaux, type des sacs digital, qui coûtent hyper cher, mais tu es contente à ton sac en digital. Bref, moi, ça ne me vend pas forcément du rêve, mais je sais qu'à un moment donné, il faut s'adapter, sinon tu coules. C'est comme, je sais pas, Kodak qui n'a pas fait d'appareil photo numérique, tu vois.
Oui.
Bon, tu en entends un peu moins parler.
Ouais, je comprends. Donc du coup, tu as ta boutique qui est primordiale, tu as ton site que tu veux quand même maintenir et qui vit sans pour autant que ce soit le projet, entre guillemets, principal sur lequel
Exactement.
Tu consacres le plus de temps.
C'est ça.
Ok, très bien. C'est chouette en tout cas de voir qu'effectivement, tu as vraiment cet univers que tu as créé avec Maison Pan, que tu vas sélectionner tes partenaires et les marques que tu vas proposer à tes clients d'une façon bien définie, avec des critères bien définis, et puis de savoir que quand même le commerce de proximité, il vit et ça a du sens et les gens ont envie de venir dans ces boutiques, d'être bien accueillis, de voir de beaux produits. Donc c'est bien de le rappeler aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et que tu aimes le moins dans, alors j'allais dire dans ton travail, mais ça va au-delà parce que tu es entrepreneur. Donc dans ce projet que tu as monté, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins?
Alors, je suis quelqu'un de plutôt créatif.
Ouais.
Je sais rien faire de mes 10 doigts.
D'accord.
Donc,
on peut pas savoir tout faire non plus.
On peut pas savoir tout faire. Donc, j'aime beaucoup avoir les idées, les voir se mettre en place, se construire, faire des essais, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais surtout, ça me permet du coup de rencontrer plein de partenaires hyper chouettes.
Ouais.
Toi, par exemple, qui m'a beaucoup aidée aussi au début. Que ce soit des fleuristes, des gens qui font des vitrines, des gens qui sont graphistes, qui travaillent dans la com. Bref. Plein de talents différents et de pouvoir mettre tout ça sur un seul projet et valoriser leur savoir-faire tout en disant moi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire. Enfin, c'est ce côté à la fois très humain, très rencontre, en même temps très créatif. Après, de voir le résultat qui plaît en boutique, quand tu vois tes clients qui sont contents, qui disent « Ah bah, je viens vous faire un coucou, j'ai vu votre vitrine, c'est trop beau ce qu'on vous a fait. » Et puis « Ah bah, du coup, je vous prends tel carnet parce que c'est super joli, la sélection du mois. » Enfin, tu peux être que ravi, quoi. Tu as l'impression de mettre un peu de paillettes dans la vie des gens. et ils repartent avec le sourire. Enfin, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Enfin, on ne sauve pas des vies, on ne fait pas un truc extraordinaire. Mais juste de dire « Ah, t'as donné du bonheur aux gens. »
Ouais, bah c'est déjà énorme.
C'est déjà pas mal. Des fois, t'as des gens, ils arrivent, ils sont un peu déprimés. Ils te disent « Ouais, ça va pas trop dans mon travail, nanana. » Du coup, je viens vous voir. Et ils ressortent de là avec une petite carte qui leur a fait plaisir et un grand sourire. Tu te dis « Ah, j'ai gagné ma journée. »
Ouais, c'est sûr.
Donc ça, c'est sûr, c'est ce qui me plaît le plus. Après, ce qui me plaît le moins, c'est le côté peut-être très administratif qu'on a en France. J'ai la chance d'avoir Marilyn, qui est ma comptable, qui est aussi ma RH, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Heureusement qu'elle est là. Mais moi, je déteste faire ça. Typiquement, là, on a changé de boutique.
Oui.
Il a fallu refaire tous les dossiers pour les normes handicapées, pour les normes d'accueil du public, pour avoir les autorisations, pour repeindre l'antenne, etc. Bah, c'est long. C'est long, c'est toujours compliqué. Il manque toujours un truc. Donc ça, c'est vraiment la partie que je déteste le plus, le côté très carré administratif. Je ne suis pas carré. Donc là, carré administratif, ça ne me parle pas du tout.
Je suis pas carré, on retient dans cette phrase. Voilà, je ne suis pas carré.
Je ne suis pas carré. Tu n'es pas obligé d'être carré si tu veux entreprendre.
Exactement.
Tu n'es pas obligé d'être un bon gestionnaire si tu veux entreprendre. Faut juste y aller, en fait. Mais oui, c'est le truc qui me pose le plus de problèmes, même les factures et tout. J'ai toujours du retard pour les envoyer à ma comptable. Enfin, bref, c'est compliqué pour moi, ça.
Ok. Et donc, j'aimerais aussi te poser une petite question. Tu t'es lancée donc, dans une boutique, un commerce, même si tu avais été vendeuse pour plein de marques, comme tu nous l'as dit, dans différentes enseignes. Ouvrir un commerce, ça ne s'improvise pas. Moi, demain, si je veux ouvrir une boutique, je ne vais pas savoir. Tu vois, tu nous en parlais, il y a plein de normes. Comment tu as fait? Est-ce que, comme tu nous l'as un petit peu dit, tu t'es entourée au tout départ, en fait? Comment tu as fait pour savoir comment faire? Trouver un local, c'est une chose, mais après, il y a plein d'autres choses à savoir.
Ouais,
ou à mettre en place, enfin, tu vois.
C'est vrai que tu te lances pas comme ça. Après, moi, je pense que j'ai, comme je te disais, une partie un peu folie qui fait que je me pose pas trop de questions et j'y vais et je verrai bien. Donc, je me suis plantée hein, sur des trucs. Ça m'est arrivé de faire un dossier de 120 pages pour justement les normes.
Ouais.
Et qu'en fait, on me renvoie tout en me disant « Mais vous êtes trompée de formulaire. »
Ah mince.
Donc,
ah.
Tu vois, des fois, je fonce un peu trop vite. Mais, mais de manière générale, c'est que je me suis pas posé beaucoup de questions. Et en fait, en effet, aujourd'hui, on est en France. On a cette chance que l'entrepreneuriat est hyper valorisé.
Ouais.
Et ce qui fait que tu trouves des ressources vraiment partout, que ce soit la CCI, la BGE, France Active, l'entrepreneuriat par les femmes, des groupes aussi d'entrepreneurs qui poussent, des infos sur Internet. Enfin, aujourd'hui, tu as tout, tu as du clé en main très clairement qui t'explique comment ouvrir une boutique étape par étape.
D'accord.
Et d'ailleurs, je vois bien que ouvrir une boutique, c'est une chose, la gérer en est une autre.
Bien sûr.
Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire c'est facile. Je pense que quand tu te bouges un peu les fesses, oui, tu peux, tout le monde peut ouvrir une boutique.
Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Tout le monde peut ouvrir une boutique, mais tout le monde ne peut pas bien la gérer, bien développer le projet.
Exactement.
Enfin, c'est deux choses différentes.
Et d'ailleurs, on le voit, hein, y a des personnes qui ont ouvert des boutiques qui, au bout de 6 mois, en enferment parce qu'elles se rendent compte que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, que tu es contraint par les horaires. Hein. C'est un métier où tu as des horaires. Tu fais 10h, 19h. Donc, c'est pas. Tu as des métiers de freelance, par exemple, qui sont hyper intéressants parce que tu peux travailler d'où tu veux dans le monde et en même temps, tu n'as pas d'horaire. Et voilà, là, pour le coup, tu as des horaires très fixes. Donc, tant que tu n'as pas de personnel qui bosse avec toi, bah, au début, tu fais tout. Donc, tu es tout le temps là. Donc, je pense qu'il y en a, c'est un peu la désillusion de voir aussi que le commerce, ce n'est pas le commerce d'il y a 20 ans où les gens achetaient en surconsommation. Aujourd'hui, les gens font beaucoup attention à ce qu'ils achètent, se posent la question d'où ça vient, de savoir s'ils en ont vraiment l'utilité. Ouais. Donc, tu ne fais peut-être pas les chiffres qu'il y avait il y a 20 ans. Mmh. Donc, c'est peu difficile pour le moral. Hein, des fois, il y a eu des journées, surtout dans l'ancienne boutique, où pendant 3 à 4 heures, je ne voyais personne.
Ouais.
Donc ça, c'est dur, tu vois. Il y en a qui ne supportent pas ça et qui n'ont pas forcément la niaque pour dire « c'est pas grave, je continue, je
Mais
je
c'est
des
bien
idées.
De dire ça, parce que dans plein de domaines, c'est le cas. Hein. Moi, dans mon domaine aussi, qui est une agence événementielle, il y a beaucoup de gens qui se lancent et l'événementiel, on se dit « c'est super, on fait des événements, on boit des coupes de champagne ». Mais ouais, mais en fait, pas du tout. Il y a tout le reste en coulisses qu'on ne voit pas et qui n'est pas simple. On bouge des cartons, on installe, enfin, on est beaucoup dans de la logistique, dans plein de choses. Donc le commerce aussi, en fait, c'est pas que juste avoir une super belle boutique, chercher ses produits, échanger, il y a tous les à côté qui sont ça. Nécessaires, en fait, indispensables aussi.
C'est ça. Parce que beaucoup de fois, on m'a dit « Ah, c'est bien, tu joues à la marchande, heureusement que ton mec, il travaille. »
Mon Dieu, horrible okay, cette phrase.
Donc, alors non, c'est pas vrai, je ne joue pas à la marchande. Après, il faut avoir sa position aussi, je pense, de chef d'entreprise.
Oui.
Parce que souvent, on l'oublie quand on est en boutique, on est tellement dans le jus, on a des clients, on a des arrivages, on doit mettre en marche, on doit faire les prix. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mm-hmm. Que du coup, on en oublie sa casquette de chef d'entreprise et que bah, parfois, pour prendre des décisions pour d'évolution, de changements radicaux, moi, au début, j'avais un espace salon de thé-café dans la boutique. Bah, fallait savoir dire stop parce que soit ça marchait pas, en plus de ça, j'avais pas le temps. Enfin, il y a plein de choses. Donc, comme je voulais quelque chose de très quali, j'ai préféré l'enlever. Mais ça, tu peux pas prendre cette décision si tu oublies que tu es aussi chef d'entreprise et que ça. Enfin, que, ouais, l'entreprise, elle doit gagner de l'argent à un moment donné.
Ouais,
quand
non,
même,
mais t'as raison de le rappeler.
Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Après, tout dépend de là où tu veux aller. Il y en a, ça leur suffit voilà, d'être tout seul en boutique et rester en petit commerce de proximité et de pas vouloir forcément grandir plus et de pouvoir juste se payer. Très bien, moi, mon objectif, c'est de créer des emplois, de faire d'autres projets à côté, de développer d'autres boutiques, de voilà, faire avancer les choses. Donc du coup, fallait avoir ce mental, je pense, un peu à la fois chef d'entreprise et vendeuse.
Ok, je comprends. C'est hyper intéressant ce que tu viens de nous dire. Et du coup, ça m'amène à la question, pourquoi déménager ? Alors, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas de Tours, tu étais rue Néricot des Touches, près des Halles de Tours. Tu as déménagé là, il n'y a pas longtemps, combien ? 15 jours ? Je ne sais plus.
20
jours. Au moment où on enregistre, 20 jours, dans la rue des Halles, qui est une rue plus commerçante, on peut le dire, de Tours. Pourquoi ce souhait de déménager, si tu peux nous en parler ? Et comment est la nouvelle boutique Maison Pan ? Parce qu'évidemment, on retrouve le Maison Pan qu'on connaît, mais il y a quelques petites choses qui ont changé. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bien sûr. Alors en fait, au début, je pense qu'il y avait une petite part un peu d'ego. Tu vois, ce côté, quand tu veux grandir et faire quelque chose d'un peu sympa, et surtout embaucher, c'est difficile de vendre du rêve à des futurs salariés quand tu es dans une petite rue où il n'y a pas forcément beaucoup de passages, où c'est beaucoup tes clients très fidèles qui reviennent, même s'il y a un peu de nouveaux clients. C'était quand même un peu compliqué, tu vois. Donc, il y avait une part d'ego de dire, même auprès des marques, il y a des marques qui ne voulaient pas travailler avec nous parce qu'on n'était pas assez visible.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Donc, moi, j'ai eu des marques qui m'ont dit non. Et ils m'ont dit, de toute façon, vous n'êtes pas assez visible, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de rendement, donc vous n'avez pas assez nous commander, donc non.
D'accord,
très bien.
Okay.
Donc, du coup, c'est aussi ça qui m'a poussée à dire pour mon ego, attends, moi aussi, j'ai envie d'être une belle enseigne qu'on reconnaît et qu'on dise, oui, je veux bosser chez vous, quoi.
Ouais. Bah, puis l'emplacement, c'est primordial
et
quand
du
on
coup,
a
voilà, c'est ça. Et là, je le redis, si quelqu'un veut voir sa boutique, l'emplacement, c'est le truc à penser dès le départ. Même si on n'a pas de budget, il faut mieux mettre un plus gros budget là-dessus et y aller parce que vraiment, voilà. Donc du coup, j'avais ce projet-là, j'ai dit, je veux déménager. J'avais fait quelques stories en demandant aux gens, vous verriez Maison Pan où ?
Oui.
Qui m'ont donné 3-4 rues, les gens ont assez bien répondu. Et il y a eu une opportunité, du coup, une première opportunité, rue des Halles.
D'accord.
Donc une des rues les plus commerçantes de Tours, donc génial, très bel emplacement, une grande boutique avec une grande réserve, hyper chouette, mais un très gros pas de porte. Donc le pas de porte, c'est ce qu'on paye pour avoir le droit de louer, parce qu'après tu repayes un loyer qui est tout
aussi cher. C'est bien de préciser.
Voilà. Donc il y avait un pas de porte. En tout, tout et pour tout, j'en avais pour 230 000 euros à sortir juste pour le pas de porte. Et après, il y avait, je crois, 1 200 ou 1 500 de loyer.
Juste pour le pas de porte.
Juste pour le pas de porte. Après, il faut rajouter les travaux, etc.
Ouais.
Mais bon, moi toujours aussi folle, j'étais convaincue que la banque elle allait me dire oui. Donc je monte mes dossiers, je vais voir les banques, refus, refus, refus. En plus après c'était Noël, donc toutes les banques étaient en vacances, et je donne ma réponse au 31 décembre, hyper compliqué. Et pour au final avoir que des refus.
D'accord.
Donc je me retrouve sans local. Parce qu'entre-temps, j'avais signé la fin de mon bail dans le local actuel en disant « bah de toute façon, je vais avoir un nouveau local rue des Halles, c'est bon, je peux dire
mais attends, mais voilà. Jamais je n'aurais fait ça, mais tu l'as fait et tu t'en es sortie, donc comme quoi. »
Voilà, c'est... comme quoi, tout est possible. Mais du coup, j'ai eu la chance qu'une de mes clientes vienne me voir en me disant « ah bah moi, je suis commerçante rue des Halles, mais sachez que mes patrons, ils vont fermer. Du coup, si jamais la boutique vous plaît, allez-y. Mm-hmm. » Donc je dis « ok, pourquoi pas. » J'arrive rue des Halles. Je vois la boutique, une boutique de 15 mètres carrés, sachant que j'en avais 35 à la base. Je me suis dit, mais non, c'est trop petit. Bon, elle est jolie, elle est bien placée, mais bon, c'est abusé. Je venais de rater une opportunité de 50 mètres carrés. Enfin, ouais. Pour moi, c'était pas possible, quoi. Je rentre chez moi, je raconte ça à mon conjoint. Il me dit, mais Floriane, tu vas être rue des Halles. C'était ce que tu voulais, c'était ton objectif. L'univers te met sur un plateau rue des Halles. Tu t'en fous, t'y vas, en fait. Bon, ok. Et en fait, 2 jours après, je signais en disant, ouais, je veux ce local-là. Et voilà. Et après, ça s'est fait hyper vite. En gros, j'ai dû signer, je crois, en février ou mars.
Ouais.
Et là, on a ouvert le 1er juin.
Ouais, ça a été hyper rapide, c'est vrai. Entre le moment où tu t'es dit, je vais déménager, je trouve le local. Ouais. Enfin, j'ai suivi un peu le déroulé, mais ouais, c'est fou.
C'est ça. Bah, c'est un alignement d'étoiles, en fait.
Oh, bah, des fois, il faut savoir...
Il faut juste savoir écouter l'univers et se dire... Ah ouais, tu veux ça, on te donne ça, vas-y.
Ouais, exactement. Donc tu as réouvert la nouvelle boutique, c'est en ça. Tout cas, il n'y a pas très longtemps. Et j'imagine que tu nous en parlais tout à l'heure, tu as bien évolué depuis tes débuts. Et du coup, tu as pu faire, entre guillemets, cette nouvelle boutique à ton image. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Enfin, comment? Sans trop en dévoiler, parce qu'on va inviter les Tourangeaux à venir te voir.
Eh bien, du coup... En toute simplicité, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est déjà d'avoir testé une première boutique, donc de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et
ouais.
De savoir que parfois, oui, il faut mettre un peu de sous sur la table parce que tu veux un truc de qualité.
Bien sûr.
Donc, j'ai fait appel à des très, très bons artisans, à des très bons peintres, par exemple. C'est tout bête, mais au début, j'avais quelqu'un, un artisan qui faisait un peu de tout, mais qui n'était pas spécialiste, donc tout n'était pas parfait.
Ouais.
Là, pour le coup, j'ai pris quelqu'un qui ne fait que ça toute sa journée. Donc là, c'était nickel, même s'il a fallu changer la couleur de la peinture parce que voilà, j'étais exigeante. Du coup, cette fois, j'ai appris à être exigeante aussi.
C'est bien.
Donc c'est hyper important. Quand on sait ce qu'on veut, il faut savoir le dire, ce qui n'était pas forcément mon cas. Au tout début, je n'arrivais pas forcément à m'imposer. Aujourd'hui,
C'est bien, t'as évolué, c'est
ça.
Fou. Ouais.
Donc c'est plus dans ce sens-là, les évolutions, de savoir mieux prendre des décisions, de savoir mieux s'entourer, de ne pas avoir peur de dire les choses, tout en étant toujours très bienveillante. Bien sûr.
Ouais.
De faire des choix tout de suite très clairs, très stratégiques, et de prendre plus en compte aussi... que oui, tu fais ça parce que faut gagner de l'argent à un moment donné, mais d'avoir plus cette notion de plaisir aussi, parce que souvent quand tu aimes ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et t'es conscient de tout ce que tu fais, bah t'offres beaucoup plus de gratitude aux gens qui t'entourent, tu attires beaucoup plus de monde un peu dans ta philosophie,
ouais,
et
sûr.
Tout de suite ça devient beaucoup plus agréable de travailler en fait. Okay. C'est plus un travail en fait, au bout d'un moment.
Bon, donc on invite tout le monde à venir, c'est au combien rue des Halles ?
75 rue des Halles.
75 rue des Halles à Tours. Bon, très bien. J'aimerais aussi pouvoir aborder le sujet du développement parce que tu nous parlais tout à l'heure de l'envie ou pas en fonction de l'état d'esprit du commerçant de développer sa boutique, son projet. Toi, tu as des perspectives de développement. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, sans nous dévoiler de peut-être autres projets secrets dont on n'aurait pas entendu parler encore, mais comment tu vois les choses, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, comment tu vois évoluer Maison Pan?
Alors, j'ai arrêté de dater les choses parce que je me suis rendu compte que les choses peuvent aller plus vite qu'on l'imagine.
D'accord.
Je pensais déménager, ça c'était sûr, mais je pensais que ça se ferait au bout de 3 ans en fait.
Ah oui, évidemment, ça a été plus rapide.
Voilà, c'était beaucoup plus rapide, ça s'est fait au bout d'un an et demi. Donc, c'est pour te dire, ça a été très rapide. Donc, je date plus forcément les choses. Après, je sais que j'ai envie que l'entreprise fasse de l'argent. Je parle beaucoup de ça.
Ah non, mais moi j'adore, c'est bien. C'est voilà, pas, il faut pas que ce soit tabou.
J'ai envie que l'entreprise fasse de l'argent, pas pour m'en mettre plein les poches, même si je me rémunère avec mon entreprise, mais vraiment dans l'idée de créer des emplois peut-être plus sains, ayant été en boutique, je sais que parfois on n'est pas forcément hyper bien valorisé, hyper bien traité, qu'il n'y a pas toujours des perspectives d'évolution. Donc là, moi, le but, c'est de créer des emplois qui sont un peu plus à mon image et de ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais en boutique.
Ouais, c'est chouette. Donc, déjà ça.
Déjà, voilà, ce premier projet. En deuxième projet, ça serait du coup aussi de grandir et de faire connaître Maison Pan ailleurs, parce que je vois que la papeterie, ça plaît, ouais, que les gens reviennent à ça, que les gens en ont marre un peu du digital, hein, et qu'au final, tout le monde utilise des cartes, et même toi, d'ailleurs, tu prends tes notes sur du papier. Tout le monde a du papier. Aujourd'hui, on a les savoir-faire en France pour faire du beau papier, pour faire des beaux carnets, pour faire des beaux produits. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont encore fabriquées en Chine, même si c'est de très grande qualité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on peut faire valoriser un peu le côté français, ça peut être chouette. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de le développer, parce que plus tu peux le développer, plus tu peux commander auprès des marques, et donc plus tu peux valoriser des marques sur lesquelles tu ne gagnes pas forcément beaucoup d'argent, mais qui compensent par le fait que tu le vends en masse, en fait,
d'accord,
tout simplement.
D'accord, oui, oui.
Donc ça serait ça, donc développer peut-être dans d'autres villes, là peut-être plus dans l'ouest parce que c'est une partie de la France que je connais mieux, donc ça serait peut-être plutôt Orléans, Angers, Bordeaux, La Rochelle, ce genre de villes. J'ai pas forcément envie d'être sur Paris ou Lyon, tu vois,
ouais,
j'ai envie plutôt d'être sur des plus petites villes. Mais
retrouver l'univers Maison Pan ailleurs,
exactement,
dans le même petit cocon entre guillemets.
C'est ça, le côté un peu écrin, un peu plus petit, voilà, mais l'emplacement.
Oui, bien sûr, on a retenu là.
mais voilà, ça serait mes deux premiers objectifs. Et après, un dernier objectif encore un peu fou.
Ouais, ah, j'adore, une exclue.
Ouais, je rêve d'avoir un moulin à papier.
Oui, c'est vrai,
donc
tu m'en avais parlé.
J'ai ça depuis un moment en tête. Et du coup, ouais, j'aimerais trop acheter un moulin à papier et pour le coup, faire plutôt... remontrer un peu le savoir-faire aussi du papier artisanal, parce qu'il doit y avoir deux ou trois moulins à papier en France qui fonctionnent encore,
d'accord,
qui sont visitables, c'est super, c'est un peu poussiéreux parce que voilà, c'est... Et c'est surtout un savoir-faire, le papier artisanal, qui se transmet juste de voix à voix. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a rien qui existe là-dessus. Là, par exemple, je suis en contact avec Zoé Zéchir, qui est sur Poitiers, qui fait son papier artisanal depuis chez elle.
Oui.
Ce n'est pas avec le système d'un moulin à papier, mais les techniques restent les mêmes. Et c'est passionnant. Et c'est heureusement qu'il y a encore des gens plus jeunes qui font, parce que c'est trop beau, en fait. Juste pour la beauté du produit, pour le côté écologique, parce qu'on recycle du papier, du carton, on recycle plein de choses. Donc, c'est génial. Parce que oui, on imagine que le papier pollue plus qu'un email, c'est faux. Je pourrais vous en parler très longuement, mais c'est pas le débat du jour.
D'accord.
mais en tout cas, voilà, c'est des beaux produits et que j'ai envie de valoriser. Donc là, ce serait une partie peut-être plus touristique et en même temps savoir-faire, patrimoine, tu vois, peut-être créer une asso, je sais pas.
D'accord, bon, c'est bien tous ces projets.
Ouais. Voilà.
On va quand même te laisser le temps de t'installer dans ta nouvelle boutique Rudéal, mais on a hâte en tout cas de voir la suite. Pour finir chaque épisode, je pose toujours trois petites questions à mes invités. Donc, comme d'habitude, tu n'y échapperas pas non plus. J'aimerais que tu nous parles d'un échec, d'une déconvenue, quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Et à chaque fois, je rappelle, je ne sais pas si c'est nécessaire parce que je pense que les gens comprennent, donc on va dire que c'est la dernière fois que je le rappelle, mais quand je dis échec, c'est tout est positif en fait. On retire le positif de chaque situation, mais quelque chose qui était écrit comme ça et ça s'est pas passé comme ça, ça t'a un peu foutu le moral dans les chaussettes, mais tu t'es relevé, t'en as tiré du positif et t'es reparti. Donne-nous si tu as quelque chose qui te vient en tête.
Eh bien, alors des échecs, il y en a certainement eu plein,
oui,
mais vraiment un que je retiens, c'est plus pas un échec, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu bousculé.
Mm-hmm.
Donc j'ai eu quelque chose, du coup, pendant le Covid, dans ma vie personnelle, qui s'est pas passé comme prévu, et qui, pour le coup, m'a vraiment mis mal. Donc une personne qui aurait dû être là et m'aider et me soutenir n'était plus là, malheureusement. Et du coup, ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'a un peu mis une morale dans les chaussettes, me dire, est-ce que je continue vraiment ? Est-ce que
avant
je vais
de
avoir
te
la
lancer
force ? Là, c'était vraiment entre, juste avant d'ouvrir, hein, c'était au moment des travaux. Les travaux avaient déjà commencé.
Oui.
Donc là, pour le coup, ouais, c'était le moment dur. Mais comme tu dis, chaque histoire a sa leçon à en retirer.
Mm-hmm.
Et donc, au contraire, finalement, ça m'a permis d'apprendre à me battre, à voir les choses plus positives, à savoir plus pourquoi je faisais les choses, à donner vraiment du sens aussi à toutes mes actions. Et donc, au final, c'est un déconvenu, comme tu dis, qui finalement m'a reboosté un peu. Mais c'est vrai que sur le moment, quand une personne chère part, tu te dis « mince ».
Ouais,
qu'est-ce que je vais
c'est
faire,
sûr. Bah, tu as eu la force, du coup, maintenant, avec le recul, la force, le courage de dire non, je continue, en fait.
C'est ça.
Et tu es arrivée. Et du coup, c'est top, ça. Bon, super. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'une personne qui t'inspire au quotidien ou de qui tu as le plus appris durant ton parcours ?
Alors, il y a beaucoup de gens. En fait, les gens qui créent de manière générale m'inspirent, que ce soit dans la création d'une entreprise, des gens, des artistes, voilà.
Ouais.
De manière, le côté créatif m'inspire beaucoup parce que souvent, c'est des gens qui osent, qui n'ont pas peur, qui vont parfois à l'encontre de la société et qui foncent, quoi. Donc ça, c'est des gens que j'admire beaucoup.
D'accord.
Qui, je trouve, peuvent faire changer les choses, peuvent faire changer les codes et rien que pour ça, je les trouve génialissimes. Alors après, ils font des choses bien ou pas bien, ça, c'est chacun son point de vue.
Oui, bien sûr.
Donc forcément, les entrepreneurs sont assez valorisé pour ça, mais il n'y a pas que ça, juste des gens qui changent, qui ont l'audace de changer de travail, qui se disent, bah tiens, je vais tout lâcher pour aller élever des chèvres en Auvergne, enfin, peu importe, je trouve ça trop génial. Et donc voilà, il n'y a pas de nom en particulier, même si en ce moment, je suis beaucoup Maud Caillot de chez Gringotts, qui a créé une banque en ligne écologique qui est juste trop bien, que je vous invite vraiment à suivre.
Ok.
Voilà, elle, je me dis, bah elle, pour le coup... elle s'est pas laissée faire, elle a été à l'encontre de toutes les banques qui existent et de toutes les normalisations bancaires qu'on a pour se dire, mais moi j'ai un super projet, il est écologique, il est bon pour la planète, bah venez avec moi. Et bah, c'est trop bien quoi.
Ouais, donc, ok.
Voilà,
alors avant ma dernière question, je viens de penser en t'entendant parler que tu nous as parlé de papeterie et autres. Tu as une marque de papeterie qui s'appelle Anaposimo. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Maison Pan, mais tu nous parlais du papier, ton amour pour la papeterie, de ton projet peut-être de moulin à papier. Qu'est-ce que tu proposes avec Anaposimo? Comment tu vois les choses et pourquoi tu as lancé cette marque de papeterie?
Alors l'idée d'Anaposimo, elle m'est venue à 3h du matin, un soir où je faisais une insomnie.
D'accord.
Quand tu mélanges toutes les lettres, ça fait Maison Pan.
Oui, alors ça, j'adore le nom Anaposimo, j'aurais aimé le trouver.
Et voilà, bah, du coup, c'est hyper sympa. Tout le monde pense que Anaposimo existe vraiment, j'adore.
Et c'est ça le jeu, en fait, voilà, elle existe, cette Anna.
C'est ça. Et en fait, l'idée, c'était de proposer de la papeterie un peu plus haut de gamme.
D'accord.
Qu'on peut retrouver plutôt dans le secteur du luxe, encore une fois. Je suis assez marquée par cet univers-là. Et du coup, proposer des beaux papiers, des belles finitions, des jolies dorures à chaud, ce genre de choses, en France.
Oui.
Et qu'on puisse le développer comme une marque à part entière, ne pas le retrouver seulement chez Maison Pan, mais au contraire, le distribuer dans plein de boutiques différentes, parce qu'on a beaucoup qui recherchent de la papeterie, qui ont envie d'avoir de la jolie papeterie un peu différenciante. Donc, c'était l'idée de départ. Comme d'habitude, je ne sais rien faire. Donc, du coup, je me suis fait bien entourée par un super imprimeur qui fait toutes nos finitions, etc.
Donc, c'est imaginer, penser et imprimer en France.
Et ouais, exactement.
Ok.
C'est ça. Et même le papier, il est fait en France.
C'est fou. Donc, bah, c'est bien.
C'est trop génial.
Tu suis tes valeurs et ton projet
exactement.
De départ.
Exactement. Donc, on s'est fait entourer par une graphiste qui s'appelle Alexandra, qui a elle aussi sa marque de papeterie, qu'on revend d'ailleurs chez Maison Pan, et qui fait de la papeterie un peu sur mesure pour les mariages, les baptêmes, etc.
D'accord.
Donc, on s'est fait d'abord entourer par elle, qui nous a beaucoup guidés, qui nous a appris beaucoup de choses, parce que pour le coup, on ne se rendait pas du tout compte de ce que c'était.
Ouais.
On a l'impression de créer un carnet, tu vas sur Vistaprint et c'est bon. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, surtout si tu veux faire du beau, du quali et un peu d'éthique aussi. Donc voilà, donc elle nous a beaucoup entouré là-dessus, donc elle a travaillé un petit moment quand même avec nous. Et aujourd'hui, on a un peu internalisé la chose, on a embauché Émilie, qui a elle-même sa marque de papeterie aussi, qui s'appelle Maison Ours, qui est aussi chez Maison Pan. On était faites pour se
comme
rencontrer.
Comme quoi, c'est les rencontres.
Et qui travaille pour nous là depuis quelques mois et qui est en train de travailler sur la prochaine collection, qui sera un peu plus colorée cette fois.
Ah, j'adore, j'ai hâte.
Ouais, qui sera super sympa et pareil, qu'on retrouvera chez Maison Pan et puis dans d'autres boutiques, je l'espère.
Voilà, donc ok, Anaposimo, on peut la retrouver dans ta boutique à toi, à Tours, mais on peut la retrouver dans d'autres boutiques en France.
C'est ça, c'est vraiment deux... Enfin, c'est comme si c'était deux entreprises très différentes et qui ont chacun leur stratégie et leurs envies, mais les valeurs restent les mêmes et la passion du papier reste la même.
Ok, bon, bah, c'était bien de faire cette petite aparté. Anaposimo, ça aurait été dommage de ne pas en parler. Et enfin, j'en viens cette fois à ma dernière question pour clôturer l'épisode. Est-ce que tu as une citation, un mantra, une phrase, je ne sais pas, qui t'aide, que tu te répètes, positive?
Alors oui, je ne la connais pas par cœur, donc je l'ai écrite.
Pas de problème.
Donc c'est Marcel Proust qui a dit ça.
Oui.
L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Voilà, et je trouve qu'elle me correspond parfaitement bien.
Et c'est ce que j'allais dire, je n'en dirai pas plus parce qu'effectivement, elle correspond parfaitement à l'épisode. Écoute, merci beaucoup Floriane de ta générosité, de nous avoir parlé de ton parcours ultra intéressant. On va donner rendez-vous à tout le monde chez Maison Pan au...
75 rue Idéal.
75 rue Idéal, je sais où c'est, moi je sais y aller mais le numéro je ne l'ai pas retenu. Donc 75 rue Idéal à Tours ou sur ton site internet. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. Et puis je te dis à très bientôt, merci beaucoup.
Merci Émilie.
Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre comme elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @comelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.